Bonjour.
Bonjour Toufik, bonjour à tous. Des milliers d'Irakiens dans les rues hier, une grève générale contre le pouvoir et des regards qui se tournent maintenant vers l'ayatollah Sistani. Son portrait dans ce journal. Nous irons ensuite à Dakar, où Édouard Philippe a remis aux autorités sénégalaises hier un sabre, restitution d'œuvres culturelles, mais est-ce seulement un affichage? Nous poserons la question. Et puis nous reviendrons sur la mobilisation des Gilets jaunes ce week-end, un an après la première manifestation. Ils s'organisent localement, vous l'entendrez. La révolte populaire ne faiblit pas en Irak, avec une grève générale très suivie ce week-end. Les autorités de Bagdad semblent incapables de répondre aux revendications des manifestants, répondant en fait par la force. 330 personnes ont été tuées en un mois et demi. Dans cette situation explosive, l'ayatollah Ali Sistani apparaît comme l'une des rares personnalités qui a encore la confiance des manifestants, Christian Chesneau.
L'ayatollah Ali Sistani, plus haute autorité chiite d'Irak, est une personnalité énigmatique. Le vieux religieux, au visage émacié, qui vit dans un logement modeste de la ville sainte de Najaf, ne s'exprime jamais publiquement et pourtant, sa parole, diffusée par ses proches ou par des communiqués, est la plus scrutée dans le pays depuis la chute de Saddam Hussein en 2003. Ce n'est pas étonnant que depuis le début du mouvement de révolte populaire, les regards se tournent vers l'ayatollah Sistani, référence morale en Irak, analyse Houcham Daoud, chercheur au CNRS.
Sistani reste écouté par la population irakienne, respecté. Au départ, il disait il faut apaiser les choses, il faut préserver les biens publics, il faut moins de violence. Aujourd'hui, il tire davantage sur le gouvernement et il dit la répression est insupportable. Il n'y a pas de justice. Il faut une autre politique. Et la classe politique dans son ensemble est corrompue.
L'ayatollah Ali Sistani est aussi paradoxal. Il est né en Iran, mais il incarne une forme de nationalisme irakien, une vision de la religion à l'opposé de celle de la République islamique, poursuit Houcham Daoud.
Il est très, je dirais, vu avec méfiance côté Iran. Sistani est davantage avec un parlement pluraliste, alternance de pouvoir, et puis avec une armée professionnelle et contre la milice. Chose qui est tout à fait le contraire qu'on le voit en Iran. On voit en Sistani une légitimité qui conteste la mainmise iranienne dans la région.
Et forcément, du côté de Téhéran, on apprécie guère cet esprit indépendant dont l'influence étant bien au-delà de l'Irak.
Là, en revanche, il n'y a pas de médiation en vue. À Hong Kong, la situation se tend un peu plus ce matin. Des manifestants pro-démocratie ont incendié l'entrée du campus hongkongais où ils sont actuellement retranchés pour empêcher une intervention de la police. Elle menace de son côté de répondre avec des balles réelles aux armes létales des protestataires. Hier, un policier a été blessé au mollet par une flèche tirée par un manifestant. Pour la première fois depuis le début de la contestation sociale au Chili maintenant, le président Sébastien Piñera a condamné les violences perpétrées par les forces de l'ordre contre les manifestants. Il reconnaît un recours excessif à la force. 22 personnes sont mortes depuis le 18 octobre dernier, un conflit qui a donc débuté il y a très exactement un mois. Et si le gouvernement a accepté de modifier la constitution chilienne, les manifestants demandent maintenant des réformes en profondeur, notamment sur le système de retraite qui est entièrement privatisé à l'heure actuelle. Le Premier ministre français est au Sénégal pour ouvrir le Forum international sur la paix et la sécurité. L'occasion pour Édouard Philippe de participer également à la restitution de certaines œuvres africaines. Il a ainsi rendu officiellement un sabre hier aux autorités sénégalaises, Yannick Falt.
Le chant funèbre des Peuls est joué par l'orchestre des forces armées sénégalaises. La cérémonie de restitution du sabre a lieu au palais présidentiel. Le sabre d'El Hadj Oumar Tall, pris par les troupes coloniales françaises en 1893 dans l'actuel Mali. Un butin de guerre exposé à Paris, musée des colonies, puis musée des Invalides, et désormais à Dakar, dans le musée des civilisations noires.
Sa place est bel et bien ici. Ce sabre symbolise un épisode important de l'histoire du Sénégal et de ses pays voisins. Il symbolise aussi, y compris dans son caractère guerrier, l'amitié, le respect, l'admiration réciproque qui unissent aujourd'hui nos peuples.
Un geste salué également par Macky Sall, le président sénégalais, deux discours à l'unisson devant la famille d'El Hadj Oumar Tall, dont Aissata Tall Sall, une députée descendante de l'ancien chef de guerre.
Ce sable devient le symbole de relations post-coloniales plus qu'apaisées entre la France et le Sénégal. Nous saluons le geste du président Macron qui a compris que dans notre identité, les symboles, les objets avaient une place à part.
Reste que c'est la troisième fois que le sabre est prêté. Les deux fois précédentes, il est revenu en France. Pas question cette fois-ci, assure l'exécutif, mais le sabre fait partie des collections nationales et il faut un vote de l'Assemblée pour entériner la restitution.
C'était Yannick Falt pour France Culture. Les Gilets jaunes ont fêté hier le premier anniversaire de leur mouvement social, un an jour pour jour après leur premier week-end de mobilisation. Et après les violences de samedi, les rassemblements se sont faits dans le calme hier, excepté l'éruption d'une trentaine de manifestants dans les galeries Lafayette, boulevard Haussmann à Paris. Selon un bilan communiqué hier soir par la préfecture de police, 13 personnes dont un mineur étaient toujours en garde à vue hier soir. Un an après, comment ce mouvement des Gilets jaunes a-t-il évolué? Nous avons posé la question à Emmanuelle Rungotz, maîtresse de conférences en sciences politiques à l'Université de Montpellier. Elle mène une enquête sur les Gilets jaunes depuis le début du mouvement et elle était ce week-end sur un rond-point.
Le moment fin novembre, début décembre, c'était vraiment le moment des ronds-points, où les ronds-points étaient des lieux très très importants, assez innovants et assez stratégiques de la mobilisation. C'était des lieux de socialisation où on venait, on se rencontrait, on venait avec son récit personnel et puis on tissait un récit commun, des identités communes, qui permettaient aussi de construire des revendications. Les Gilets jaunes, ils sont arrivés avec la revendication sur le prix de l'essence et puis ils ont développé des revendications progressivement sur les injustices fiscales, sur les inégalités sociales et puis des revendications sur le système politique. Donc ça a permis en partie la politisation du mouvement, la structuration de ces revendications. Puis les ronds-points ont été détruits, en tout cas les occupations ont été détruites par les forces de l'ordre, souvent en décembre ou janvier. Ça correspond aussi au moment où les assemblées essayent de se structurer. Donc c'est un mouvement qui va sans doute être intéressant à suivre là dans les semaines et les mois qui restent, aussi à l'échelle locale pour voir comment ça impacte. Il y a des associations qui se créent. On a vu des collectifs par exemple qui parfois mettaient en place des choses très concrètes, des jardins partagés, de la permaculture, des marchés paysans. Alors c'est pas toujours durable, mais parfois ça l'est. Donc c'est une manière de dire que c'est intéressant de suivre sa structuration à l'échelle nationale, s'il y a une coordination qui va se mettre en place ou pas. Mais c'est sans doute à l'échelle locale aussi que ça a impacté.
Et certains Gilets jaunes préviennent déjà, ils se mobiliseront avec les syndicats le 5 décembre prochain. Et mobilisation interprofessionnelle contre la réforme des retraites. C'est l'une des raisons de la colère des personnels hospitaliers, la dette des hôpitaux publics. Eh bien, le ministre de l'économie n'est pas fermé à ce que l'État la reprenne. Bruno Le Maire le disait hier sur un plateau de télévision. Le gouvernement, par ailleurs, doit présenter un plan d'action pour les hôpitaux ce mercredi. La semaine européenne de réduction des déchets débute avec des ateliers, des animations un peu partout en Europe et notamment en France pour sensibiliser la population au tri et à la consommation. Ce week-end, à Paris, dans le 14e arrondissement, des ateliers ont déjà eu lieu. Atelier où s'est rendu Adrien Paluet.
Sur le stand de l'association Ataram, Rachida s'essaye à un petit jeu.
Coup de yaourt là, des terres cuites.
Bon, ça c'est un piège parce qu'il n'y en a pas souvent des pots en terre cuite, mais bon.
Des petites cartes plastifiées symbolisent chacune un déchet qu'il faut placer devant la bonne poubelle.
Je me suis bien débrouillée, j'ai eu deux fautes. C'était intuitif au début et puis pour juste deux vignettes, ben là j'ai dû poser une question.
Rachida a hésité, mais ce n'est pas le cas des plus jeunes, selon Julie Mouret, présidente de l'association Ataram.
Les enfants sont beaucoup plus sensibles et informés sur ces questions-là. Et c'est souvent eux qui vont montrer aux parents « Ah ben non, tu vois, en fait, ça se jette dans cette poubelle-là. Ah oui, ça, on peut s'en servir pour faire ça. »
D'ailleurs, en face, Karima regarde le stand de troc avec son fils.
Qu'est-ce qui t'intéresserait, Samuel ?
Le camion ? Celui-ci ? Tiens. Et ben voilà. Il est à toi.
Et en échange du camion, Karima va elle-même déposer des livres et des vêtements. Une démarche positive selon elle.
Il n'y a pas d'argent en jeu, donc ça facilite mieux les échanges et les relations entre les gens. C'est un moyen populaire vraiment de réunir les gens.
Le stand Soupe Disco porte lui bien son nom. Les membres de la République des Hypervoisins ont préparé une soupe avec des légumes invendus tout en musique. Nicole est membre des Hypervoisins.
C'est ce que l'on cherche, hein, qu'ils soient contents et puis qu'ils s'habituent à cette idée qu'il ne faut plus jeter, quoi. Il faut éviter de jeter. Si on ne va pas chercher les légumes, ils ne vont pas non plus organiser eux-mêmes, ils n'ont pas le temps, ils n'ont pas les moyens. Donc c'est aux gens de le faire dans les quartiers. Je pense que tout le monde peut le faire, ce genre de truc, c'est sympa.
Depuis la rentrée, la mairie du 14e accompagne l'initiative Zéro Déchet dans le quartier.
C'était un reportage d'Adrien Paluet pour France Culture. Le temps en ces débuts de semaine sera maussade sur une grande partie du pays, humide sur le nord-est avec quelques chutes de neige sur la Bourgogne-Franche-Comté ce matin et de la pluie également sur le quart sud-est ainsi que sur la Corse. Pour les températures, Météo France annonce 4 degrés ce matin à Besançon, 7 à Rennes, à Bordeaux et à Lyon, 8 degrés à Paris et à Lille, 13 degrés dans la matinée à Nice.